VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 6 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord les titres.
Le Front pour le respect de la Constitution, dont fait partie le MLC de Jean-Pierre Bemba, pose des conditions à sa signature de l'accord du 31 décembre dernier en RDC.
Le Tchad ferme sa frontière terrestre avec la Libye en raison, dit-il, d'une potentielle grave menace d'infiltration terroriste.
Au Nigeria, une nouvelle lycéenne de Chibok a été retrouvée par l'armée 3 ans après son enlèvement par Boko Haram.
Après le Sénat hier, les patrons des services de renseignement rencontrent aujourd'hui le président élu Donald Trump. À l'ordre du jour, une ingérence russe dans la récente présidentielle américaine.
Et ne manque pas notre page de sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le Tchad a annoncé hier la fermeture de sa frontière terrestre avec la Libye en faisant état d'une potentielle grave menace d'infiltration terroriste dans un message radio-télévisé du Premier ministre Albert Paimi Padake. Les précisions, John Nidon.
Face au péril qui menace l'intégrité du territoire national, le gouvernement a décidé d'une part de procéder à la fermeture de notre frontière terrestre avec la Libye et d'autre part de déclarer les régions frontalières de la Libye zone d'opération militaire, a déclaré le Premier ministre. Ces régions désertiques du Tibesti sont très peu peuplées mais sont le lieu de contrebandes diverses organisées par les populations qui vivent des deux côtés de la frontière, notamment les Toubous. Par ces deux décisions, le gouvernement entend parer à toute éventualité susceptible de troubler la quiétude de nos populations dans ces régions, a ajouté Albert Baïmi Badaket. Selon ce dernier, dans leur débâcle, quelques groupes terroristes isolés ont convergé vers le sud de la Libye, c'est-à-dire à la frontière nord du Tchad, qui se trouve ainsi potentiellement exposé à une grave menace d'infiltration terroriste. Le chef du gouvernement tchadien n'a fourni aucune indication sur l'identité de ces groupes terroristes, ni aucune précision sur leur débâcle en Libye.
Au Nigeria, une nouvelle lycéenne de Chibok, enlevée il y a presque 3 ans par Boko Haram, a été retrouvée par l'armée. Claire Morin-Gibourg.
Rakiya Aboubkar avait été enlevée le 14 avril 2014 avec 275 autres lycéennes de Chibok. Elle a été retrouvée près de la forêt de Sambisa avec son bébé de 6 mois, a annoncé dans un communiqué Sani Ousmane, porte-parole de l'armée. La jeune femme est actuellement examinée par des médecins militaires et devrait ensuite être confiée aux autorités de l'État de Borno. Le groupe Bring Back Our Girl ou Ramenez-nous nos filles n'a pas confirmé l'identité de la jeune fille pour l'instant. L'armée nigériane a également affirmé que 1400 civils accusés d'être des membres du groupe djihadiste ont été arrêtés entre le 28 décembre et le 4 janvier dernier. Début novembre, une jeune fille avait également été retrouvée près de la frontière du Cameroun et à la mi-octobre, le gouvernement nigérian avait réussi à négocier la libération de 21 d'entre elles. 195 lycéennes sont toujours disparues.
Au Mali, des combattants de l'ex-rébellion à dominante Touareg sont entrés hier à Gao, principale ville de la région, pour effectuer des patrouilles mixtes avec l'armée malienne et les groupes pro-Bamako. La CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, avait déploré le 30 décembre dans un communiqué qu'un groupe de manifestants armés hostiles à la CEMA bloque depuis plusieurs jours l'entrée d'une de ses compagnies composée de 200 hommes à Gao, tenue par le gouvernement malien.
Au Burkina Faso, le procès des 27 militaires qui projetaient en 2015 de libérer des collègues emprisonnés après un putsch raté a repris hier à Ouagadougou. À l'ouverture de l'audience, les avocats de la défense ont soulevé des exceptions de nullité qui ont été rejetées par la cour après plus de 6 heures de délibération. Selon la défense, le tribunal militaire doit notamment se déclarer incompétent parce que les infractions en cause n'ont pas été commises dans des établissements ou enceintes militaires, mais dans un domicile privé.
Issa Ayatou, le tout-puissant patron de la Confédération africaine de football, la CAF, pourrait bientôt faire face à un juge égyptien pour abus de confiance. Selon la presse égyptienne, l'autorité de régulation en charge des compétitions lui reproche d'avoir violé la loi égyptienne dans l'attribution des droits de retransmission de la CAN. Abdourahmane Dia.
L'information révélée par le site d'information égyptien kingfoot.com fait état d'une enquête ouverte par l'autorité de régulation des marchés. Dans un rapport, il lui est reproché d'avoir attribué à la compagnie Lagardère Sport les droits de retransmission de la CAN sans que l'offre ne soit ouverte à d'autres pour s'assurer d'une compétition juste et équitable. Selon le document, Lagardère obtient les droits pour 12 ans à compter de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 14 janvier prochain au Gabon. L'organe de régulation demande l'annulation de ce contrat car il porterait atteinte à l'économie égyptienne. La CAF a réagi à travers un communiqué parlant d'informations erronées. Elle précise que son contrat avec Lagardère n'enfreint pas les lois égyptiennes ou internationales et se dit disposée à collaborer avec toutes les instances africaines ou non africaines. Âgé de 70 ans, Issa Ayatou dirige la CAF depuis bientôt 30 ans. Il en est à son 7e mandat et rien ne lui empêche de se présenter pour un 8e mandat.
La CAF rejette ces accusations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, au lendemain d'un nouvel attentat qui a fait 2 morts et 6 blessés, dont 3 policiers, dans la ville côtière d'Izmir, les autorités recherchent toujours activement l'auteur de la tuerie d'Istanbul dans la nuit du Nouvel An. Tuerie revendiquée par le groupe État islamique. Une attaque à la voiture piégée a frappé jeudi un tribunal d'Izmir, dans l'Ouest, tuant un policier et un huissier, selon le vice-premier ministre Veysi Kaynak. 2 terroristes ont été tués par la police après l'explosion et un 3e a pris la fuite, a-t-il précisé.
L'ONU dénonce comme un crime de guerre la privation d'eau potable infligée aux 5,5 millions d'habitants de la capitale syrienne Damas, où la pénurie s'aggrave en raison de combats entre régimes rebelles. Ces combats se poursuivent depuis 2 semaines à Wadi Barada, localité rebelle située à 15 km de Damas, où se trouvent les principales sources d'eau potable pour la capitale.
Le président élu Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui les patrons des services de renseignement américains dans un climat tendu par son scepticisme quant aux découvertes sur une ingérence russe aux multiples facettes dans la récente campagne présidentielle aux États-Unis. Monsieur Trump, qui va s'installer à la Maison-Blanche le 20 janvier, a rendez-vous avec James Clapper, chef du renseignement américain, et les chefs de la CIA, John Brennan, et du FBI, James Comey.
Dans une audition très attendue devant le Sénat américain jeudi matin, M. Clapper et le chef de l'Agence de sécurité nationale, la NSA, l'amiral Michael Rogers, ont donné un léger avant-goût du rapport qui sera présenté à M. Trump. Les hauts responsables du renseignement répondaient à une convocation du sénateur républicain John McCain. Les précisions, Arzuma Compaoré.
Le directeur du renseignement américain James Clapper, qui coordonne les 17 agences d'espionnage américaines, a estimé que la Russie avait clairement pris une position encore plus agressive dans le cyberdomaine. Notre évaluation est maintenant plus certaine que celle du 7 octobre lorsque le gouvernement a accusé publiquement la Russie, a ajouté M. Clapper lors de cette audition devant le comité des services armés du Sénat. C'est un acte de guerre. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une attaque atomique. Je dis seulement que lorsqu'on attaque la structure fondamentale d'un pays, ce qu'ils font, alors c'est un acte de guerre, a expliqué le sénateur McCain, âgé de 80 ans. 2 autres officiers ont témoigné après Clapper, l'amiral Mike Rogers, le directeur de l'Agence de sécurité nationale, et Marcel Lettre, le sous-secrétaire de la Défense pour le renseignement. Le président élu Donald Trump doute toutefois de cette conclusion officielle alors que Moscou nie les allégations de piratage.
Le vice-président américain Joe Biden, connu pour son style direct et ses formules originales, a conseillé jeudi au président élu Donald Trump d'être enfin un adulte. Interrogé sur la chaîne de télévision PBS sur les innombrables et imprévisibles tweets de celui qui succédera à Barack Obama le 20 janvier à la Maison-Blanche, le vice-président a adressé un conseil à M. Trump.
Grandi, Donald, Grandi, est venu d'être un adulte, tu es président, a-t-il lancé dans un sourire. Il est temps de faire quelque chose, montre-nous ce dont tu es capable, a-t-il ajouté. Jeudi, dans une série de tweets matinaux dont il est coutumier, Donald Trump s'en est vivement pris aux démocrates, qualifiant leur chef de file du Congrès, Chuck Schumer, de « clown ».
Les procureurs de la ville de Chicago, ici aux États-Unis, ont inculpé hier pour crime raciste 4 Noirs accusés d'avoir séquestré un jeune homme blanc. Une scène diffusée en direct sur Internet qui a choqué l'Amérique et provoqué la colère des médias conservateurs. Sur la vidéo de 30 minutes diffusée sur Facebook Live et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, on peut voir les 4 jeunes suspects, 2 hommes et 2 femmes, en train d'infliger des sévices au jeune homme et de répéter en criant des insultes contre Donald Trump et les Blancs.
Voilà pour le journal.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Union européenne décaisse 3,3 milliards de francs CFA pour sécuriser le foncier agricole en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment d'accompagner l'élaboration et l'exécution de la politique foncière rurale, de même que les premières activités de l'Agence du foncier rural, AFOR. Ce montant constitue une tranche d'un financement de 27 milliards de dollars américains, promis en décembre 2015 par le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement. Au Gabon, le régime Bongo entend transformer une créance en titre, ceci pour résoudre le problème de la dette publique aux petites et moyennes entreprises. Ce mécanisme offrira près de 400 milliards de francs CFA selon un expert. L'effondrement des cours du baril de pétrole, la rareté des ressources financières portent un coup dur à l'économie du pays. La compagnie nationale d'électricité Eskom en Afrique du Sud menace d'interrompre l'approvisionnement de 10 municipalités de la nation arc-en-ciel après le 16 janvier. Ces villes doivent à cette société 489 millions d'arriérés en cas de coupure. Cette décision, approuvée par la Haute Cour de Pretoria, affectera malheureusement des particuliers qui ont payé leurs factures.
À présent, les sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Mahrez, roi d'Afrique.
Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur africain 2016 hier soir à Abuja au Nigeria lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football. Le joueur algérien a remporté 361 voix devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant favori et tenant du titre, qui n'a recueilli que 313 votes. Le vote de Mahrez n'est pas un hasard du tout. Il a réalisé une saison 2015-2016 phénoménale. En remportant le championnat d'Angleterre avec son club de Leicester City, il avait également été désigné meilleur joueur de Première Ligue par ses pairs ainsi que par les supporters.
Défaite en amical pour la République démocratique du Congo.
Les Léopards battus 2-0 hier en match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, à la CAN, au Gabon. On rappelle que la RDC va livrer son premier match face au Maroc. Ce sera le 16 janvier prochain. De son côté, le Cameroun débute la compétition face au Burkina Faso le 14 janvier.
L'Ouganda dévoile sa liste des 23 pour cette CAN.
Oui, l'entraîneur de l'Ouganda, Milutin Sredejovic, a communiqué hier sa liste des 23. Le technicien serbe qui a qualifié l'Ouganda pour la première fois depuis 39 ans pour une phase finale de la CAN. Eh bien, Sredejovic a inclus dans la sélection le jeune attaquant de 18 ans, Mohamed Chaban, du FC Onduparaka, l'un des 3 novices de ce groupe. Parmi les joueurs vedettes de la sélection ougandaise figure le gardien Denis Onyango, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique avec le club sud-africain des Mamelodi Sundowns. On rappelle que l'Ouganda jouera dans le groupe D avec l'Égypte, le Ghana et le Mali.
Au Zimbabwe, le gouvernement donne un coup de pouce aux Warriors.
Oui, le Zimbabwe au bord de la ruine financière qui a débloqué en urgence une subvention d'$1 million pour faire taire la grogne de son équipe nationale de football sur les conditions de sa préparation à la CAN. Ces derniers jours, les guerriers ainsi que les appels les supporters avaient refusé de s'installer sur un site de leur fédération jugé de qualité trop médiocre selon la presse locale. Allez, enfin Idrissa, quelques mots de basket NBA, le championnat de basket nord-américain avec vous.
Brooklyn Nets, Indiana 109-121, Utah Toronto 93-101, Charlotte Detroit 114-115, Atlanta New Orleans Pelicans 99-94, Oklahoma City Houston 116-118 et Phoenix Dallas 102-95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Front pour le respect de la Constitution, dont le parti phare est le MLC de Jean-Pierre Bemba, exige la gestion du Conseil de suivi de la transition en République démocratique du Congo avant de signer l'accord du 31 décembre dernier. Il dénonce le déséquilibre de l'accord qui confie à Étienne Tshisekedi la gestion de cet organe de contrôle et au rassemblement, famille politique de l'opposant historique, la direction du gouvernement jusqu'aux élections en décembre 2017. Eddy Issango a joint à Kinshasa la secrétaire générale du Mouvement pour la libération du Congo et chef de file du Front pour le respect de la Constitution, Eve Bazaïba.
La FENCO a reconnu la pertinence de nos revendications et nous demeurons ouverts pour continuer à échanger et trouver des causes. Notre revendication, c'est de vouloir jouer un rôle important et efficient au niveau du comité de suivi. Et nous avons dit qu'il n'était pas question de laisser ceux qui gèrent à l'exécutif, mais gérer aussi les comités de contrôle. On ne pouvait pas être à la fois juge et parti. Alors, nous estimons que nous sommes à même de jouer le rôle de contrôleur, donc de l'action de mise en œuvre de l'accord. Voilà. Mais on n'a pas encore trouvé de solution idoine. Et certainement, avec la situation d'ouverture éprouvée, il n'y a pas de problème. Nous allons signer l'accord parce que c'est notre œuvre.
Votre position est exploitée par la majorité qui demande plus d'inclusivité et menace de ne pas poursuivre jusqu'à l'application de cet accord.
Nous avons demandé à la majorité de ne pas utiliser notre position comme étant alibi, de ne pas mettre en œuvre l'accord parce que la majorité a une très grande responsabilité de nous avoir mis dans cette situation d'impasse. Donc ce n'est pas elle qui va utiliser cet alibi-là. Le MLC, le Fonds pour le respect de la Constitution, reconnaît que cet accord-là, c'est notre œuvre. Mais pour sa mise en œuvre, nous avons besoin des garanties, des garde-fous pour savoir que l'accord sera mis en œuvre, c'est tout.
C'est écrit dans l'accord que les rassemblements assurent la gestion du gouvernement, mais aussi le contrôle de la transition.
Le rassemblement est venu nous visiter. Nous avons reçu non seulement la CENCO, l'ambassadeur de l'Union européenne et le rassemblement. Il y avait deux délégués du rassemblement, M. Martin Fayou, le député, et aussi M. Félix Tshisekedi, avec qui nous avons échangé. Nous avons fait voir clairement qu'il n'était pas question pour le rassemblement de diriger le gouvernement et de diriger l'organe du contrôle de mise en œuvre. Et je crois qu'ils nous ont compris et ils sont allés. Nous allons poursuivre les discussions.
Vont-ils accepter de vous laisser la gestion de l'organe du contrôle de la transition?
Mais ils ont un choix à faire, les points de soit le gouvernement, soit les comités de suivi. Mais comme ils avaient déjà opté pour le gouvernement, ils ne peuvent pas être jugés partis. Est-ce que vous trouvez normal que le fils qui s'est fait premier ministre et son père est chargé des contrôles du gouvernement, des contrôles de la CENI, des contrôles de mise en œuvre? Ça se passe tout.
Avec cette tergiversation sur l'application de l'accord, est-ce que vous pensez que les délais d'organiser les élections en décembre 2017 sera tenu?
Il n'y a pas de tergiversation. Nous devons déjà, dans le démarrage, fixer les choses.
C'était Eve Bazaïba, secrétaire générale du Mouvement pour la libération du Congo et chef de file du Front pour le respect de la Constitution.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
La Fédération internationale des droits de l'homme interpelle la communauté internationale et demande à la communauté internationale de changer de ton et de dimension d'action vis-à-vis du Burundi. C'est à la suite de la radiation ce mercredi de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA, la plus ancienne du pays. Eric Manira Kiza a joint à Paris le responsable du bureau Afrique de cette organisation, Florent Gel.
Liquider aujourd'hui la Ligue ITECA est un symbole extrêmement fort pour ce pouvoir qui veut signifier par là qu'il ne veut plus des droits humains, qu'il ne veut plus d'ONG indépendantes au Burundi et qu'il ne veut plus de critiques sur ses actions. Et ça s'est passé quelques jours après l'annonce du président Pierre Nkurunziza, qui le pensait à se représenter pour un quatrième mandat, alors que déjà, sa volonté de se représenter pour un troisième mandat avait mis le pays à feu et à sang. Donc on voit bien quel est le projet politique du CNDD-FDD et de son président, le président du Burundi, Pierre Nkurunziza. C'est bien de rester au pouvoir le plus longtemps possible, et à vie si même c'était possible, et ce, à quelque prix que ce soit, puisqu'aujourd'hui, le bilan est évidemment plus de 1000 victimes, entre 400 et 800 disparus, des milliers de personnes détenues arbitrairement et pour des raisons politiques dans les prisons officielles ou les prisons secrètes du régime.
Le gouvernement de Bujumbura parle de rapports manipulés. Il accuse même la Ligue ITK de ternir l'image du pays. Que répondez-vous à ces allégations?
Déjà qu'ils répondent à savoir où est Marie-Claudette Cuisera, trésorière de la Ligue ITK qui a disparu le 10 décembre 2015, après avoir été emmenée par des hommes de la documentation, les services de renseignement burundais, et qu'ils donnent des précisions sur toutes les personnes qui ont disparu, qui ont été tuées, qu'une seule enquête qu'ils ouvrent, soi-disant, aboutisse et nous donne de vraies réponses.
Vous interpellez le Conseil de sécurité des Nations Unies pour réhabiliter la Ligue ITK, mais on a déjà vu les limites de ce conseil.
Il est vrai que toutes les actions qui ont été prises par la communauté internationale n'ont pas été en mesure de changer la donne. C'est pour ça que maintenant, il faut peut-être aussi changer de ton et changer de dimension d'action et commencer à mettre une pression suffisante sur le gouvernement burundais pour pousser celui-ci à aller négocier. Sinon, on ne pourra intervenir que quand il sera trop tard.
Pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard, mais quand est-ce qu'il sera trop tard?
Il est déjà un peu tard. On aurait pu éviter beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de viols, beaucoup de tortures. Et chaque jour qui passe est un jour de trop. Difficile de dire le 20 janvier, il sera trop tard, évidemment. Mais attention à la catastrophe.
C'était Florent Gel, responsable du Bureau Afrique à la Fédération internationale des droits de l'homme.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En République centrafricaine, c'est la consternation au lendemain de l'annonce par la justice française concernant l'enquête sur des cas de viol présumés sur mineurs par des soldats de Sangaris. La justice française a dit cette semaine n'avoir pas trouvé de preuves pour de telles accusations. Freeman Sipila de Bangui.
L'annonce de la justice française a suscité de nombreuses réactions dans la capitale centrafricaine. Pour l'homme de la rue, la France n'a pas joué franc jeu dans cette affaire.
Dire qu'il n'y a pas de preuves, je crois que ça ne rendrait pas service à la communauté centrafricaine, aux familles centrafricaines qui ont vu leurs soeurs violées. Il faudrait que la France, qui est un état de droit, un état qui respecte la légalité, puisse approfondir les enquêtes encore davantage, rassembler les preuves, punir les auteurs.
Aujourd'hui, la justice française pense que tout ce qui a été mené comme enquête jusqu'à l'aboutissement, les informations ne sont pas avérées. Et je suis franchement désolé.
La justice française n'a pas très bien fait son travail. Elle cherche à couvrir seulement leur souveraineté, leur intérêt, leur personnalité.
Ça ne me surprend pas. Ça ne fait que me rappeler ce que les Français pensent de nous.
La société civile centrafricaine affirme ne pas partager ce point de vue sur l'absence d'éléments de preuve. L'avocat Barthélémy Mathias Moroba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, propose que les victimes soient entendues de nouveau.
Nous ne partageons pas malheureusement le point de vue de cette justice. Pour nous, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des victimes qui sont à Bangui et qui attendent que la justice soit rendue. Les moyens doivent être mis à disposition pour permettre à cette victime-là de s'exprimer. Et c'est ça que nous sommes en train de déplorer. Et il fallait aussi que l'État centrafricain puisse s'impliquer dans cette affaire. Parce qu'il s'agit de l'exploitation des enfants centrafricains par des militaires, des sangaristes qui sont des Français qui viennent ici dans une autre mission et qui outrepassent leur mission pour faire n'importe quoi sur les petits-enfants de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter ça.
Pour Apollinaire Mbessa, député de Dédé Mokouba, dans la préfecture de la Mombéré-Kadéi, ce ne sont pas les preuves qui manquent.
C'est un grand étonnement pour moi d'écouter ces pareilles réactions. Parce que depuis que la force onusienne est chez nous ici, il y a un peu plus de 3 ans, force Sangaris c'est surtout, nous avons toujours palpé de doigts les preuves. Même si on s'approche des services des droits de l'homme, toutes les associations, le groupe des femmes, passer par là. Ce sujet n'est pas à nier, c'est bien une réalité.
Les autorités centrafricaines se réservent encore de tout commentaire. Présenté comme un succès par le ministère français de la Défense, l'opération Sangaris a quitté la Centrafrique fin octobre 2016 en laissant derrière elle plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, y compris sur des mineurs. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Maintenant, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire plus précisément, le président Alassane Ouattara tente une nouvelle fois de rassurer les plus sceptiques en réaffirmant qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat en 2020 malgré la suppression de la clause de la limite d'âge dans la nouvelle constitution du pays. Analyse avec le journaliste et analyste politique ivoirien André Silver Conan, joint à Abidjan par Abdourahmane Dia.
Je pense qu'on s'y attend plus ou moins. Le président Ouattara a eu à plusieurs reprises à dire dans des termes un peu plus clairs qu'il ne se représenterait pas en 2020. Et je pense que même si on lui accorde le bénéfice du doute, rien que par la mise en place des nouvelles institutions, on sent bien que c'est quelqu'un qui a envie vraiment de passer la main. Dans tous les cas, je pense que les Ivoiriens, vu sa propre histoire, vu l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout de ces dernières années, et vu l'histoire générale même de l'Afrique, je pense que c'est un risque politique qu'il prendrait de vouloir régner sa propre promesse. Mais je pense qu'il n'est pas à ce niveau-là. Voilà, il est dans des dispositions pour céder le pouvoir et puis voilà quoi.
Mais une partie de l'opposition ne semble toujours pas convaincue puisqu'il a quand même fait sauter le verrou de la limite d'âge avec la nouvelle constitution.
Oui, bien sûr. Il n'empêche, le verrou des deux mandats cumulatifs demeure. Donc, et je pense qu'en 2020, je ne sais pas s'il aura plus de 115 ans, mais je pense que ce verrou n'a pas sauté pour lui. Voilà. En Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des gens qui auraient plus de 115 ans en 2020 qui pourraient être bons pour le job. Je ne crois pas que ce soit pour lui. Moi, je pense très sincèrement que le président Ouattara ne va pas revenir sur sa promesse parce que d'un côté, il se présente comme un homme de parole et de l'autre aussi, je crois que les Ivoiriens ne sont pas prêts à vivre les tensions que d'autres ont vécues en rapport avec la renonciation. Sinon, le retour sur des promesses, je pense par exemple au Burundi, par exemple. Voilà. Donc, non, l'opposition a bien raison de guetter, c'est son job. Mais je pense que pour la petite lecture que je fais des initiatives de M. Ouattara, il n'est pas homme à revenir sur ses engagements.
Et dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de bataille pour la succession? En tout cas, on prête à certains l'ambition de vouloir déjà lui succéder. Est-ce que c'est une perception qu'on a à Abidjan?
Pour le moment, on ne vit pas cela de façon très flagrante. Je pense que les choses vont se préciser et les batailles seront encore plus visibles dans un an ou dans deux. Voilà, pour le moment, le président il tient bien la barre. Et même si effectivement il y a certaines ambitions qui s'affirment, mais qui ne s'affichent pas, il faut bien le préciser, les choses pour l'heure sont aux étapes de projets, dans les petits cercles, voilà, il n'y a pas encore de bataille féroce comme on l'a constaté par exemple.
Disons de bataille ouverte, disons de façon ouverte sur la place publique.
Comme j'ai dit, il y a des ambitions affirmées dans des cercles, mais non affichées. Voilà.
Eh bien, c'était André Silver Conan, journaliste et analyste politique ivoirien, joint à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité, et Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.